Bonjour à tous. Alors, la parole que je vais vous apporter ce matin n'a pas l'air d'avoir un rapport avec Pentecôte. Et aujourd'hui, c'est Pentecôte. Et cependant, à y regarder de plus près, il pourrait y avoir un lien, et on le verra à la fin. Il s'agit de la parabole du bon samaritain, en Luc 10. Jésus, répondant à un pharisien qui lui posait la question de savoir qui était son prochain, lui dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, on pourrait dire un sacristain, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui ». Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc il y a là un homme qui est blessé sur le chemin de Jéricho. Un prêtre, puis un lévite, passent et ne s'arrêtent pas. Un samaritain, peuple honni des Juifs, s'arrête, soigne, puis transporte le blessé à l'hôtel pour que l'hôtelier en prenne soin. Mais Jésus n'a pas raconté la suite de cette parabole qui n'est pas inintéressante, et que voici. Le prêtre et le lévite, voyant le blessé, hâtent leurs pas et feignent de ne pas voir cet homme sur le bord de la route. Puis ils font 300 pas, tout en s'éloignant rapidement et en réfléchissant. Il y a tellement de brigands qui feignent d'être blessés pour attirer des êtres sensibles et en profiter pour les trousser. Et puis, il était peut-être mort. Or, ma religion m'interdit de toucher un mort. Je dois aller à la synagogue. Je ne peux pas y aller souillé. Oh, et puis, il y a bien quelqu'un qui s'occupera de lui. Mais leurs pas se ralentissent, leur conscience se mettant en éveil. C'était peut-être un vrai blessé qui avait vraiment besoin d'aide. Ne suis-je pas docteur de la loi? Est-ce que je ne l'enseigne pas moi-même aux autres? Que dit la loi dans le Lévitique? Et le Lévite savait ce qu'était le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans Ésaïe 58, il est dit, « Ne te détourne pas de ton semblable. » Non, se disent-ils, je ne peux pas en rester là. Il faut que j'y retourne. Le prêtre, comme le lévite après lui, arrête leurs pas et décide de retourner auprès du blessé. Ils font le chemin inverse, mais le blessé n'est plus là. C'est trop tard. Il a probablement été recueilli par un homme qui ne connaissait pas la loi, un samaritain peut-être. C'est tant mieux, et après tout, c'est déjà ça de moins à faire. Il y a quelque temps, j'ai passé un examen. D'abord, l'examen théorique, qui a très bien marché, et j'avoue que j'étais assez content de moi. Puis, peu après, j'ai passé l'examen pratique, mais là, c'était vraiment juste et j'avais des doutes. Le président de l'examen, lors de la correction, me dit « Félicitations pour l'exercice théorique. On voit que vous connaissez bien vos cours. » Vous avez une très bonne note. Par contre, pour la pratique, ça laisse à désirer. Manifestement, vous ne savez pas transposer vos connaissances dans le concret. Là, vous avez complètement échoué et c'est une note éliminatoire. Puis il mit une appréciation, peut mieux faire. C'est très incomplet, recalé. Examen à repasser. Et puis il a signé. Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment retenir les leçons de ces échecs? Comment ne pas rester dans l'amertume et la honte d'avoir passé à côté de la volonté de Dieu et de ce qu'il honore? Comment se ressaisir quand on a fauté? Comment redémarrer? Quelles leçons Dieu veut nous apprendre face à nos mauvaises réactions? Il y a quelques semaines, j'ai très mal vécu deux expériences que je vous partage ici et dont je ne suis pas fier, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, ces expériences douloureuses ont mis à mal ma conscience de chrétien. Mais avant, je reviens sur le contexte de la première. Elle s'inscrit dans un cadre certainement choisi par Dieu, le juste juge. Pourquoi donc je vous raconte cela? C'est parce que je suis ce prêtre et ce lévite. Le dimanche 20 mars, vous vous en souvenez, c'était la journée du sel. Cette association qui vient en aide aux plus pauvres et aux démunis dans les pays de misère, les laisser pour compte. Et Dominique et Gédéon nous en avaient parlé. Ce même dimanche, notre fils Sylvain faisait de même dans son église à Annecy. Message que je n'ai pas pu entendre, bien sûr, mais je m'étais promis de le réécouter en replay. Sylvain étant très investi dans le sel et le parrainage d'enfants. Trois jours après, nous avions chez Jean-Marc et Manu notre réunion de quartier à Châles. Et c'était sur la parabole du bon samaritain, justement. Chacun y exprimait ce que devait être un bon samaritain. Trois jours après encore, c'était le quiz biblique, dont vous vous en souvenez, sur l'épître de Jacques. Et mon chapitre, c'était le premier, à apprendre par cœur. Et je le savais au bout des doigts. Le surlendemain, nous passions la journée en jeûnant avec ma femme pour différentes choses. Deux jours après, j'écoutais le message de Sylvain que j'ai trouvé très profond et très pertinent sur le thème de la justice. En particulier ce passage d'Ésaïe 58 qui dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. » Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta justice marchera devant toi. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. On t'appellera réparateur de brèches. Je lui ai envoyé un SMS pour le lui dire et lui préciser que j'avais été remis en question par sa prédication. Il m'a répondu « En quoi donc ?» Eh bien, en ce que je réagis souvent avec préjugés, avant même de connaître la situation des personnes, souvent sur l'apparence. Et qu'en cela, le Seigneur avait beaucoup de boulot à faire avec moi. Je ne croyais pas si bien dire, et l'occasion m'en fut donnée deux jours après. Entre-temps, le vendredi 1er avril, nous étions avec Jean-Marc dans une famille à Saint-Jouard-Prieuré, pour accueillir une famille réfugiée ukrainienne. Et Jean-Marc m'informe que le lendemain, nous devrons accueillir une autre famille chez nous. Pas de problème, nous nous en étions engagés. C'était prévu et nous sommes allés même faire des courses pour eux. Cette famille, nous l'avons reçue le lendemain, pendant 10 jours, chez nous, dans un appartement avec 3 chambres de libre que nous avions. Et nous avons partagé tout, cuisine, repas, salle de bain, jeux. Mais la nuit qui a précédé cet accueil, nous avons été réveillés par un coup de sonnette à notre porte. Il faut dire que nous sommes en duplex dans un immeuble au 4e étage et que normalement la porte d'entrée est fermée la nuit. Il a donc sonné, non pas à l'interphone, mais à notre porte au 4e étage. Je dis alors à ma femme, tu as entendu la sonnette ? Elle me confirme. On attend un petit peu. Et de nouveau, la sonnette se fait plus insistante. Nous sommes donc descendus, pensant que cela pouvait être la voisine qui avait besoin d'aide. Et c'est ma femme qui a ouvert. Il y avait un homme debout contre le mur qui demandait quelque chose. Il n'avait pas l'air blessé, il parlait normalement mais doucement. Malheureusement, je n'avais pas mes prothèses auditives et je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Ma femme lui a demandé comment il avait fait pour rentrer puisque c'était fermé en bas et ce qu'il voulait. Il a répondu « c'était ouvert » et il a baragouiné quelque chose. En colère, je lui ai dit « vous savez, monsieur, l'heure qu'il est ? Il est 00:30 passé. On ne réveille pas les gens à cette heure-ci. » Il a répondu « je suis désolé ». Et moi, je lui ai dit « non, vous n'êtes pas désolé, vous êtes impoli, retournez chez vous. » Et nous avons refermé la porte. J'ai demandé alors à ma femme « qu'est-ce qu'il voulait ?» Elle a répondu « il sentait l'alcool. » Et il disait qu'il était en panne en bas. Tu parles en panne de quoi ? N'importe quoi. Il était alcoolisé, oui. Et nous sommes retournés nous coucher. Je n'ai pas pu me rendormir. Au point que 2 heures après, j'ai dû prendre un somnifère pour dormir. En effet, tout ce que je vous ai dit en amont m'est revenu à l'esprit sans cesse, en boucle. J'avais péché plus. Peut-être cet homme savait-il que j'étais médecin, mais étant en retraite depuis 1 an jour pour jour, ironie de l'histoire, je n'avais plus de cabinet ni de plaque à mon nom, encore moins à ma porte d'entrée. Privé. Mais cet homme le savait-il ? Assurément, si cet homme connaissait la parabole du bon samaritain, il aurait dit « ici, ce doit être la maison du prêtre ou du lévite, mais certainement pas celle du samaritain. » Je me suis même demandé si Dieu n'avait pas envoyé un ange pour me tester. Manifestement, j'avais échoué à l'épreuve de vérité. Je n'avais pas compris la parabole du bon samaritain étudiée seulement 1 semaine avant, comme par hasard. Je ne sais pas pourquoi cet homme est venu sonner à notre porte. Peut-être avait-il réellement un besoin, un blessé de la vie. Mais comme le prêtre et le lévite, je suis passé outre. J'ai réagi comme eux, parce que j'avais été dérangé. Ce n'était pas prévu. Ma nuit aurait dû être paisible, comme le trajet du prêtre et du lévite. C'est vrai que je n'aime pas qu'on m'impose de faire ce qui n'est pas prévu, ce que je n'ai pas moi-même décidé, et qui me demande d'agir autrement. Par exemple, je peux être très généreux financièrement, parce que je l'ai décidé, j'ai maîtrisé la situation. Mais je suis dérangé par un mendiant qui se met en travers de ma route et qui me demande ce qui n'est pas prévu. Je peux facilement me mettre au service des autres, mais je n'aime pas qu'on m'y oblige, qu'on me force la main. J'étais souvent sollicité comme médecin à répondre à des appels financiers et compassionnels pour des œuvres charitables. L'Association des orphelins d'Auteuil, les aveugles, les handicapés, Médecins sans frontières, le Téléthon. Et je répondais systématiquement que je soutenais déjà des œuvres que moi j'avais choisies. En clair, je veux rester maître de mes actes, choisir ce que j'ai à faire ou non. Or, le prêtre et le lévite devaient penser d'eux-mêmes. Ils avaient un programme, ils se rendaient quelque part, ils avaient un but, qui se voient contrariés par quelqu'un qui va leur prendre du temps, peut-être de l'argent. On ne peut pas secourir tous les blessés de la vie. Il y a des associations pour ça. C'est le rôle des pouvoirs publics. Bref, ils raisonnaient et on raisonne comme cela. Je peux aider des réfugiés ukrainiens parce que je suis préparé à cela. Mais celui qui frappe à ma porte est un intrus. Je me suis imaginé une mère Teresa, un abbé Pierre et simplement un Albert Bastian. il n'aurait pas réagi comme cela. Ils auraient écouté la demande de cet homme. Ils l'auraient pris en compassion et auraient répondu à leur manière, donnant quelque chose, apportant un conseil, une aide quelconque. Une cousine à ma femme, qui a appris que nous avions logé dans notre appartement une famille ukrainienne pendant 10 jours, exprimait son admiration de ce que nous avions fait. Quelle dérision, si elle savait. Je n'ai pas compris la prédication de mon fils sur l'amour du prochain et l'exercice de la justice qui pourtant était clair. Je n'avais pas compris ce qu'était le vrai jeûne. J'avais prétendu avoir été remis en question. Belle parole, éphémère et sans fondement. Je n'avais pas compris le texte de Jacques, chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous trompez en vous-même par de faux raisonnements. Car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous voyez, je la connais par cœur ou presque par cœur, mais pas avec le cœur. J'avais oublié que même le juge unique a répondu à cette veuve qui frappait de nuit à sa porte pour qu'il lui fasse justice. Je n'ai pas même eu le minimum de compassion du juge. J'avais oublié ces versets « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ». J'avais oublié Ésaïe 58 que j'ai cité, Matthieu 25, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger ». Je réfléchissais à tout cela pendant ma nuit, comme le prêtre et le lévite sur leur route, après avoir croisé le blessé. J'aurais voulu revenir en arrière, mais malheureusement, je n'ai pas de montre à remonter le temps. C'était trop tard. Peut-être un bon samaritain a répondu à la requête de cet homme. Quand donc comprendrai-je ce qui signifie la miséricorde spontanée plus que les sacrifices que je consens? Reproche que Jésus faisait à ces mêmes prêtres et lévites. Une deuxième expérience a été douloureuse pour moi et elle est venue achever ce qui aurait pu être le sentiment de ma suffisance de chrétien et me faire perdre mes illusions sur mes qualités spirituelles s'il en était. Pour Pâques, nous sommes allés avec tous nos enfants à Vérone pour une semaine en famille. Nous avions décidé d'aller dans un parc d'attractions tout proche, Gardaland. Il était entendu que nous irions le mardi après Pâques pour éviter l'affluence du week-end. Dès notre arrivée dans le logement, la propriétaire, l'apprenant, nous a conseillé d'aller plutôt le dimanche, car justement les familles fêtant Pâques étaient chez elles et il y aurait moins de monde le dimanche. Ils ont été tous d'accord, mais j'ai été contrarié. Et je n'ai rien dit, car le Noël précédent, j'en avais fait la remarque qu'à Noël, nous pensions toujours cadeaux, repas, fêtes, mais que nous ne faisions rien pour rappeler le vrai sens de ce jour. Contraints un peu forcés, ils avaient concédé de chanter des chants de Noël. Mais je m'étais promis de ne plus faire de réflexion de ce genre pour les fêtes chrétiennes. Donc à Pâques, je n'ai pas fait de remarque du style « Pendant que toutes les familles vont fêter Pâques, nous, chrétiens évangéliques, nous allons nous divertir et oublier le sens de la résurrection. » J'ai pensé à Eric Liddell, ce champion olympique de course à pied en 1924, qui refusa de faire une course éliminatoire du 100 mètres où il excellait parce que c'était un dimanche. Il a été immortalisé dans le film Les Chariots de Feu. Il a préféré aller au culte, adorer son Seigneur, perdant ainsi une médaille. Mais Dieu l'a honoré. Un autre champion, touché par sa foi, lui offrit sa place pour le 400 mètres du mercredi. Un autre lui tendit un mot avant la course. Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Il gagna la course, remportant ainsi une médaille qui ne lui était pas destinée. Je n'ai pas eu ce courage. J'ai revu le film récemment et j'en ai pleuré. J'ai vu la différence qu'il y a entre un simple croyant et un vrai disciple. La suite d'Ésaïe 58 dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, et donc pour nous le dimanche, jour de repos pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, et si tu fais du jour du repos tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes propres voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Pourquoi tant d'échecs dans nos vies ?» Arrivés sur les lieux de ce parc d'attractions, nous avons été accueillis par des statues de Bouddha, des dieux hindous, Poséidon et autres créatures hybrides. J'aurais été seul, je serais reparti, mais j'étais en famille et je ne pouvais pas. Et je n'ai pas eu le courage d'en faire la remarque. D'autant qu'ils auraient répondu, à juste titre sans doute, que se divertir ce jour-là ou un autre jour, quelle est la différence? Sinon, il ne faudrait pas se divertir du tout. Et que par ailleurs, les gens ne venaient pas là pour adorer ces statues, mais que c'était simplement des décorations d'un parc à thème. Sans doute, quoique. Ne parle-t-on pas d'idoles quand nous plaçons des images, des symboles avant Dieu? N'est-ce pas une forme d'adoration que de mettre une priorité de ce genre avant Dieu? Nous avons passé une très bonne journée de plaisir avec nos enfants et petits-enfants, mais Dieu était oublié. J'en ai été contrarié, plus par ma lâcheté que par leur insouciance. Blaise Pascal disait « Les hommes, pour oublier leur misère, se sont avisés de se divertir, et cependant le divertissement est la plus grande de leur misère. » J'ai pensé à cette rencontre de Jésus avec ce jeune homme riche qui respectait bien les 10 commandements. Jésus d'ailleurs l'aima pour son honnêteté, sa discipline, sa sincérité, un bon pratiquant, quoi. Pourtant, il lui manquait l'essentiel, se détacher de ce qui le retenait encore, sa richesse. Et quand Jésus lui demanda de s'en séparer, il s'en alla tout triste, parce qu'il en était incapable. « Je suis ce jeune homme riche. » Et quand Jésus... Pardon. « Je suis incapable d'aller au bout de mon christianisme, incapable de mettre en pratique la parole de Dieu dans ses exigences, incapable d'être un vrai disciple. » Dans cette journée de joie, en famille, en ce jour de Pâques, comme ce jeune homme riche, face à une décision, j'ai senti au-dedans de moi de la tristesse. Je ressemble davantage à ce Pierre présomptueux qui était prêt à suivre Jésus, mais face à l'épreuve, la fuyant parce que trop dur. Face à son indignité, il a pu dire à Jésus, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je souscris complètement à ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? S'il a pu dire « Je suis le premier des pécheurs », alors à combien plus forte raison puis-je le dire aussi ? Faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais. John Wesley, fondateur de l'Église évangélique méthodiste, disait avant sa conversion, alors qu'il était déjà pasteur anglican et touché par la foi des frères moraves, il dit « J'ai été en Amérique pour convertir les Indiens, mais oh, qui me convertira moi-même ? Qui me délivrera de mon mauvais cœur incrédule ? Ma religion est une belle religion d'été. Je puis en parler, je puis même y croire, tant que le danger est loin. Mais quand je me regarde en face, alors mon esprit se trouble. Je ne puis pas dire « la mort m'est un gain ». Oh, qui me délivrera de cette crainte de la mort ? Que ferai-je ? Où fuirai-je pour lui échapper ? Je souscris et je m'identifie complètement à ces paroles de Wesley, tant je puis les dire moi-même. J'ai pensé à ces chrétiens persécutés, surtout en terre d'islam, parce que nouvellement convertis et qui ont le courage d'affronter leur famille et la société, et donc le qu'en dira-t-on ? Combien j'en suis loin. J'ai pensé à ces versets de mise en garde. Tous ceux qui vont vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ou encore, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou encore, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Puis-je dire que j'ai été crucifié avec Christ ? Que j'ai renoncé à moi-même ? Que je porte ma croix ? Que je suis persécuté ? Non. Car en tant que chrétien, je passe plutôt pour être un honnête homme. Mais Blaise Pascal le disait aussi. Je sais ce que c'est que d'avoir le cœur d'un honnête homme, c'est épouvantable. J'ai donc repensé à Paul, à sa déception sur lui-même, mais aussi à ce cri de victoire à la fin. Qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour moi non plus. Et encore, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa patience pour que je serve d'exemple. Pour ma part, j'ai demandé bien sûr pardon au Seigneur. Je me suis humilié et ça a été douloureux. Et je sais qu'il m'a pardonné car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. J'ai pensé à ce psaume de David, psaume 32, où il exprime à la fois toute sa déception de lui-même et sa reconnaissance au Dieu qui fait miséricorde. « Nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il y a quelques années, j'ai fait un rêve. Je me voyais comparaître en vêtements souillés devant Dieu, à la porte du paradis, ce Dieu Tout-Puissant et Saint, devant ce trône rempli de lumière. Et il me disait... Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Quelles sont tes œuvres ? À genoux, mon visage incliné vers le sol, je ne pouvais invoquer aucune œuvre, aucune excuse qui puisse atténuer les reproches de Dieu. Ma vie n'était en rien un exemple, et si je regardais en arrière, je ne trouvais rien qui tienne encore debout. Quels ont été mes fruits? Quel être humain pouvait venir plaider ma cause? Ma bouche même ne pouvait sortir, s'ouvrir, car elle était souillée. Dieu réitéra sa question. « Alors, qu'as-tu à dire ?» Aucun son ne sortit de ma bouche. C'est alors que je sortis de mon dos une croix que je brandis au-dessus de ma tête. La croix se mit à briller et à briller de plus en plus et avec une intensité telle qu'elle devint éblouissante. Sa lumière cachait tout ce qui était derrière, dont moi, au point que Dieu lui-même ne me voyait plus derrière. Il ne voyait que la croix. La croix de son Fils était tellement glorieuse que le cœur de Dieu en fut réchauffé et satisfait. Toutes les œuvres étaient là, toute la justice était là, toute la bonté était là, incarnée en Jésus. Ma culpabilité était effacée derrière l'amour et le pardon offert à la croix. J'en avais les larmes aux yeux et je savais alors que Dieu m'était favorable, qu'il me prendrait avec lui pour l'éternité. Pardonné, justifié, sanctifié, lavé. Au terme de cette confession, je veux le déclarer ici comme John Newton, cet esclavagiste devenu chrétien. Je veux me souvenir de deux choses. Je suis un très grand pécheur et Jésus-Christ est un très grand sauveur. Ce n'est pas pour rien que Christ est mort pour nos péchés, encore présents. Son amour n'est pas en fonction de la gravité de nos fautes, il est inconditionnel. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, Christ m'aime, il a donné sa vie pour moi, pécheur. Alors, devant cette grâce imméritée et infinie, je ne puis que dire en fléchissant les genoux, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, peut-être vous sentez-vous parfois dans cette situation d'indignité face à la sainteté de Dieu. Parfois, vous avez honte de vos réactions, votre comportement, vos pensées, et vous vous sentez loin de cet idéal que vous auriez aimé vivre, en tout cas en tant que chrétien. Et vous avez raison, vous en êtes incapable, pétri de chair, et vous auriez voulu faire autrement. Rappelez-vous alors que tous ceux que Dieu a aimés étaient de cette même nature. Assurément, dans de telles circonstances, nous avons besoin d'être rebaptisés du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'esprit de sainteté, c'est-à-dire de se remettre en question, de se repentir et de changer de comportement. Après la résurrection, les disciples étaient dépités, désappointés. Ils venaient de trahir leur Seigneur, ils avaient fui leur responsabilité malgré leurs prétentions. Craintifs, ils étaient trop bien conscients de leur insuffisance. Et Christ leur apparaît avant l'ascension pour leur confier une mission. Allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Mais comment le pourraient-ils, si peureux et faibles qu'ils sont? Leur indignité était trop crue, trop présente. Mais Christ leur fait une promesse. Ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Mais de quoi parle-t-il? Mais ils se placent en attente. Ils se repentent de leur faute. Ils prient. Le Seigneur ne demande rien de plus. Et sa grâce s'opère, le don, car il s'agit bien du don, leur est accordé, le Saint-Esprit. Alors ils sont revigorés, régénérés, conscients du pardon de Dieu, de la grâce immense, et ils répondent « Oui, Seigneur ». Alors comme Pierre à la Pentecôte, je puis dire « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous allons chanter un chant. Je demanderai à l'équipe de louanges de s'avancer. Pendant ce chant, si vous êtes dans cette situation et si vous reconnaissez que vous êtes non seulement pécheur indigne de Dieu, je vous demanderai de venir ici devant. C'est un acte courageux. Et on priera pour vous. C'est vrai, cela, ça coûte. Mais n'est-ce pas ce à quoi notre Seigneur nous appelle ? Dépasser nos craintes, accepter ce geste, même et surtout si vous êtes chrétien. On a tous besoin de recevoir cette part d'Esprit Saint qui nous pardonne, nous restaure, nous régénère, nous redonne confiance et nous rétablit dans la paix et la grâce de Dieu. Donc nous allons nous lever et pendant le chant, si vous voulez que l'on prie pour vous, si vous vous sentez dans cette situation, avancez-vous et nous prierons pour vous. a-t-il d'autres personnes qui veulent s'avancer pour que l'on prie pour eux, pour elles? Je demanderai aussi à ceux qui sont d'intercession habituellement de s'avancer pour prier pour les personnes dont je serai moi-même. Et que ceux qui restent à leur place prient intérieurement ou à voix basse pour ceux qui vont prier. Merci.